Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. mer est aux anges. Vous pensez à un primat des Gaules qui vient, c'est comme le pape, il n'y en a qu'un. Donc, on ne peut pas lui faire concurrence. Le temps passe. Maxime s'ennuie. Il voit son frère rire et parler à une femme qui a une robe longue, noire, avec au cou un énorme collier qui brille de tous ses feux. Maxime se dit que son frère a dû voir le collier. Il fait la cour au collier. Son oncle s'est mis au buffet et boit, boit. Son père vient à lui de temps en temps pour lui présenter des gens. Maxime n'écoute pas, sourit et dit bonsoir. Son père lui dit tout bas, « Sois pas timide !» et le quitte pour revenir plus tard avec d'autres personnes. Il voit sa femme parler à une femme. Ils sont assis dans un pas de l'autre. Vous savez, Monseigneur le primat de Gaules est venu me voir. Le primat des Gaules est un gros homme, cheveux gris. Il s'ennuie au milieu d'une bande de vieilles femmes. Il aimerait mieux s'être près des jeunes filles. Mais ce qui empêche la jeunesse de s'approcher de lui, c'est sa soutane. C'est bien la soutane, mais lorsqu'on veut draguer, ce n'est pas ça. Quelques personnes dansent gentiment. Maxime n'a pas envie de danser. Arrive à lui une femme d'un 22 ans, grande, mince, blonde, cheveux en chignon, elle est très belle. Habillée d'une robe blanche longue avec des brillants sur la robe blanche. Elle est très belle. Elle lui dit, « Vous ne semblez pas vous amuser. » Il lui dit, « Non, pas trop. » Elle lui demande, « Alors pourquoi ne pas partir ?» Il lui dit, « Je ne peux pas, j'habite ici. » Elle lui fait, « Ah, vous êtes le fils de la maison. » Il lui répond, « Oui. » Elle lui dit, « Moi, c'est Fleur Le Treuil. » Il lui dit, « Enchanté, vous êtes un invité de ma mère ?» Elle lui dit, « Non, de votre père. Je suis une cliente, ou plutôt mon mari, mais comme il ne peut venir, je suis là. » Il lui dit, « Enchanté. » Et il demande, « Et pourquoi êtes-vous ici ?» Il lui dit, « Parce que j'aide mon père à la banque. » Je regarde les dossiers, les demandes de prêt. Et lui dit, « Tout doit être intéressant. » Il lui dit, « Pas très, je n'aime pas ce métier. » Elle lui dit, « Pourquoi ne pas en faire un autre ?» Il lui dit, « J'y suis obligé. » Elle lui dit, « Je vois, c'est pas drôle d'être le fils de famille. » Il lui dit, « Oh que non !» Elle sourit, « Je crois que cette soirée est bien partie. Les invités sont tous arrivés. Vous n'avez plus rien à faire ici. » Il lui demande, « Comment ?» Elle lui dit, « Oui, vous pouvez partir. La présentation a été faite. Venez. » Il fait, « Mais, elle lui dit, venez, tout le monde est occupé, qu'allez-vous faire ? Moi, que vous ayez une jeune fille qui vous attend pour que vous la fassiez danser. » Il lui dit, non, elle lui fait, alors, venez. Il lui demande, mais où ? Elle lui dit, je vous emmène. Et il la suit. Il quitte la soirée. Et elle le mène à un fiacre. Il lui dit, entrez. Il entre, elle aussi. Il lui demande, nous allons où ? Et souris lui dit, « Chez moi, voyons. » Et le fiacre se met en route. Il est tout étourdi et lui demande en souriant, « Vous n'êtes jamais sorti avec une femme ?» Il lui dit, Génésie, elle fait « Eh bien !» Le fiacre s'est arrêté rue Victor Hugo devant un hôtel. Une fois rentrée, elle le mène au salon. Meuble 15. Assoyez-vous. Il s'assoit dans un fauteuil. Elle lui demande, vous désirez boire quelque chose? Il lui dit, oui. Elle lui demande, qu'est-ce que vous voulez boire? Du champagne? Du bourbon? Il lui dit, du bourbon. Elle va chercher. Elle le sert. Tenez, merci. Puis se sert. Et s'assoit en face de lui. Il se demande ce qui va se passer. Boive en silence. Puis elle demande, est-ce que vous aimez les femmes? Il est tout rouge. Il lui dit, oui, bien sûr, mais pas comme vous le croyez. Et elle lui dit, si vous dites ça, c'est que vous ne les aimez pas. Et lui dit, si, mais je cherche plus que leur corps. Elle lui demande, et quoi? Il lui dit, pour moi, les sentiments sont plus forts que le reste. Je recherche ce qu'elles sont. Et lui dit, vous êtes un mystique. Et lui dit, je n'irai pas jusque-là. Elle lui fait « Alors ?» Il lui dit « Je crois que j'aime les choses vraies, pures, pour tous les rapports humains, les sentiments. » Elle lui demande « Et vous avez trouvé ?» Il lui dit « Oui, si l'on peut dire, mais pour moi ça s'est mal fini. » Mais c'était plus compliqué que ça. Elle lui demande « Expliquez-vous. » Il lui dit « Eh bien voilà, j'ai connu un garçon de mon âge. Lorsque nous étions enfants, nous avons fait des choses inoubliables. Et puis un jour, la vie nous a séparés. Je pense beaucoup à lui. Avec lui, c'était une amitié sérieuse, pure. Puis, j'ai rencontré, bien plus tard, une jeune fille, j'étais amoureux, elle aussi, mais la chose n'a pu se faire. Il était impossible de continuer à nous aimer. On a essayé d'être amis, mais là non plus, ça n'a pas marché. Elle lui dit, c'était de votre faute, vous cherchiez trop la pureté? Et il lui dit, non, ce n'était pas à cause de moi, ni d'elle, mais de son histoire, enfin... Je ne peux pas vous raconter son histoire, elle ne m'appartient pas. Puis après, plus tard, j'ai rencontré un jeune homme qui lui avait des problèmes très sérieux. Alors, j'ai voulu l'aider, il manque de chance, il en est mort. Elle lui dit, c'est bien triste tout ça. Elle se lève, il se fait tard, j'étais obligé d'aller dans ma chambre, de m'allonger dans ma chambre. Il se lève et lui dit, oui bien sûr, je vais vous laisser. Et lui dit, il n'en est pas du tout question, vous restez près de moi. Je m'allonge, je rêve et vous vous asseyez près du lit. Les domestiques sont absents et j'ai peur seul. Vous en irez que lorsque je vous le dirai, c'est-à-dire lorsque j'aurai sommeil. Il lui dit, mais... Elle lui dit, vous voulez pas laisser une femme seule dans cette grande maison? Ce serait pas chevaleresque. Je sais que vous l'êtes. Médecine sourit, lui dit, bien, je reste, puisque vous désirez. Mais je ne suis pas chevaleresque. Là, vous vous trompez de personne. Lorsque j'étais jeune, on m'appelait le sauvage. Elle lui dit, alors, vous serez mon sauvage. Quel sauvage! Vous voulez peut-être encore boire? Il lui dit, non, merci. Elle lui dit, parce que vous pouvez amener le verre et la bouteille. Venez. Et il la suit.
Elle le met à sa chambre. Entrez.
Asseyez-vous. Il s'assoit dans un fauteuil et lui dit, je reviens de suite.
Il l'attend, intrigué. Elle revient.
Elle revient avec un déshabillé transparent et se couche. Sur le lit. Elle demande, pourquoi est-ce qu'on vous appelait le sauvage? Il lui dit, parce que je suis parti avec mon ami étant enfant en Afrique. En fait, nous devions aller en Amérique, mais on s'était trompé de bateau, qui était un bateau de négriers. Nous étions devenus des esclaves à vendre en Afrique. Elle lui dit, c'est un peu compliqué votre histoire. Du Jules Verne, le capitaine de 15 ans. Vous avez lu? Mathieu lui répond, non, et puis nous étions plus jeunes. Enfin, nous avions réussi à nous enfuir des négriers et sommes partis comme ça, sans savoir où nous allions, et nous avons même vu une montagne, haute montagne enneigée. Elle lui dit, en Afrique, c'est impossible. Il lui dit, je vous assure que si. Puis, on est entré en France et on nous a séparés. Là, j'étais devenu sauvage. Je suis resté d'ailleurs un peu. Elle lui fait, j'ai peur. Vous avez l'air comme ça, bien sage et propre. On n'a pas envie de vous appeler le sauvage. Il lui dit, faut pas se laisser prendre par les apparences. Je bouillonne à l'intérieur. Oui, je bouillonne à l'intérieur de moi. Je déteste la vie que je mène. Je ne rêve que de repartir avec mon ami. Elle lui dit, eh bien partez, vous êtes libre. Il lui dit, non, pas vraiment. J'ai la banque de mon père, et mon père vieillit, il n'a personne pour le remplacer. Elle lui fait, je vois, vous avez une vie rangée, sans amour ni aventure. Il lui demande, et vous? Elle lui dit, oh, moi, je suis mariée avec un homme qui n'est jamais là. Je suis riche, je ne fais rien, je m'ennuie à mourir. Maxime lui dit, quittez-le. Elle lui dit, ce n'est pas si simple. Officiellement, je ne peux rien lui reprocher. Il est bon à sa façon et me laisse libre. Je l'aime toujours un peu. Mais aime quelqu'un d'absent qui écrit de temps en temps des cartes postales. Mathilde demande, pourquoi voyage-t-il? Elle lui dit, pour ses affaires, toujours les affaires, il n'y a que ça qui intéresse. Je suis trompé par ses affaires. Mais à part ça, il est bon. Je suis sa femme. Disons, je suis sa femme comme si j'étais sa maîtresse à Paris. Officiellement, je suis très heureuse. Certaines femmes, comme moi, remplacent leur manque d'amour par la religion. Mais moi, vous êtes croyant ? Je réponds. Enfin, pas dans le sens que vous le dites. J'ai été élevé chez les pères, mais j'ai toujours eu des difficultés à croire à tout ça. Vous êtes hanté alors ? Il lui répond. Non, c'est plus compliqué. Je crois que Dieu n'est pas un homme à barbe et longs cheveux. Non. Je pense qu'il n'est qu'un esprit, ou plutôt un fluide. En plus de la vie, il donne aux hommes, il leur donne aussi l'intelligence. Il aime pour qu'ils... Enfin, l'intelligence et l'âme, pour qu'ils puissent choisir entre le bien et le mal. Elle lui dit, un fluide vital, Dieu. Il lui dit, pas vraiment ça. Je pense qu'il envoie un fluide vital, Dieu, et qu'il est un esprit sans forme. Et il demande, alors il ne ressemble pas à quelque chose. Il lui dit, non, à rien, il est sans forme. Et il lui demande, et son fluide? Il lui dit, aussi invisible que lui. Et lui dit, il faut bien qu'il ait une bouche pour parler, pour donner ses ordres. Il lui dit, pourquoi faire, puisqu'il n'a pas à dire, puisque son fluide crée ce qu'il désire, c'est-à-dire la vie, rien de plus. Elle lui demande, mais et ses commandements? Il lui dit, là ce sont les hommes qui les ont inventés, grâce à leur intelligence que leur a donnée Dieu pour qu'ils choisissent entre le bien et le mal. Mais le mal était simplement non, le non-vie et le bien, la vie. Mais l'homme, à cause de son cerveau très perfectionné, a mélangé les deux. Il a créé des réactions plus compliquées. C'est devenu plus complexe, le mal et le bien aussi. Il a transformé le mal en vol, haine, crime, etc. Le bien en pitié, amour, aide, etc. Dieu n'a pas prévu ça. Il avait simplement prévu des choses simples. C'est l'homme qui a compliqué. Dieu se contente d'envoyer le fluide à tout ce qui vit, rien de plus. Et lui dit, c'est une façon de voir particulière. Je crois que les prêtres ne seraient pas de votre avis. Il lui dit, la religion est une invention de l'homme. Dieu, qui est esprit, qui a donné la vie, ne demande pas que l'on fasse autre chose pour lui que de vivre. Elle lui demande, oui, mais et la mort? Il lui dit, la mort, c'est parce que Dieu cherche à perfectionner sa création. Il recommence à recréer ce qu'il a créé pour perfectionner ce qu'il a fait. Elle lui dit, avec vous, c'est plus simple que la Bible. En fait, le fluide de vie abrite l'atome de toute chose, que toute chose est faite. Il lui dit, vous allez dans mon sens. Elle lui dit, oui, mais et Jésus? Il lui répond, Jésus est le Fils de Dieu, comme nous sommes tous le Fils de Dieu parce que nous venons de lui. Il a compris qu'il fallait remettre les hommes sur les rails pour éviter que le mal aille trop loin. Alors qu'il a donné des préceptes de la façon de vivre comme il faut, comme aimer son prochain et des codes formels, etc. Elle lui demande, et pourquoi est-il mort? Il lui dit, il est mort pour se sacrifier, pour devenir un martyr. Un martyr, on ne peut l'oublier. Et surtout un martyr qui parle du bien. En devenant martyr, ça lui a permis de disperser sa parole pour qu'elle reste immortelle. l'idée de l'amour du prochain, que tout le monde est pareil, s'est répandue dans un monde où l'on pratiquait l'esclavage. Alors là, plus rien n'a été pareil. Il a tué l'ancien monde. Mais le nouveau monde a gardé des idées de l'ancien, a créé des nouveaux esclaves comme les serfs. La religion qui a voulu dominer les peuples s'est enrichie au nom de Dieu. Le mal cherche toujours à détourner ou transformer le bien. Mais il ne peut le détruire entièrement. Une idée ne peut disparaître constamment. Et entièrement. Et il lui demande, « Et Dieu ?» Il lui dit, « Là rien, il est esprit, il ne pense pas. » Il envoie le fluide, il a donné à penser à l'homme pour qu'il puisse penser. Il n'en a pas besoin, puisqu'il est un esprit. Il n'a pas besoin de verbe. Le verbe, c'est pour l'homme, pour qu'il puisse se construire et se transformer. Parce qu'il n'est pas parfait, mais Dieu est parfait, il n'a pas besoin de verbe. Et lui dit, « Mon Dieu, vous vous dites sauvage, mais les sauvages croient en Dieu ?» Il lui dit, « Non, certains croient que Dieu est dans ce qui vit, même dans les plantes, les montagnes, etc. » Et lui dit, « C'est un peu comme vous. » Il lui dit, « Pas tout à fait. Moi, je crois que Dieu donne le fluide de vie, mais pas dans ce qu'il vit. Enfin, c'est juste de la vie. » Elle lui dit, « Donc la religion catholique se trompe. » Il lui dit, « Je le crois. » Et Souris lui dit, « Bien sûr qu'il y a Dieu, mais il ne faut pas s'imaginer comment il fait la vie, nous n'en savons rien. Peut-être un jour que dans le cosmos, nous aurons une réponse à tout ça. » Elle lui dit, « Si votre idée est bonne, on ne verra rien. » Il lui dit, « Si l'on ne voit pas, cela ne veut pas dire que ce n'est pas. Et puis, l'on peut calculer ce qu'on ne voit pas et démontrer sur un tableau noir. » Elle lui dit, « De cette façon, tout est possible. On peut démontrer ce que l'on veut avec rien. » Il lui dit, « La science moderne, qui pour connaître l'infiniment petit ou l'univers, ne peut pas le démontrer autrement que par le calcul. » Elle baille et lui dit, « Quelle discussion pour la nuit !» Il se lève et lui dit, « Je vais vous laisser. » Elle lui dit, « Restez, je vous ai dit que vous en allez que lorsque j'aurai sommeil. Et oui, vous êtes mon chevalier servant. » Il s'est rassis. Elle lui dit, remarquez une discussion comme celle-là, il faut être tranquille et avoir du temps. Il n'y a que la nuit qui est propice à ce genre de discussion. Le monde dort, on n'a rien à faire que de parler. Oui, que de parler. Il lui dit, bien sûr, vous avez raison. Moi, c'est la nuit que je pense le mieux. La journée, je suis pris par mon travail et les autres. Les autres qui m'ennuient. Alors, je ne suis pas moi-même. Je suis moi-même que la nuit. C'est vrai que la nuit, on n'est gêné par personne. Et que l'on ne peut pas faire autre chose que de penser ou parler. Elle lui dit, oui, peut-être, ce que font de temps en temps les autres. Il lui demande, quoi? Elle lui dit, l'amour. Il ne lui dit rien. Elle lui dit, l'amour est fait pour mettre en marche le fluide, comme vous dites, et créer un autre être. Il lui dit, vous avez raison. C'est pour ça que Dieu est amour. Elle lui dit, oui, mais il y a des amours illicites. Il lui dit, l'homme, on lui a donné une conscience, mais la naissance d'un être est un acte d'amour sacré. Elle lui dit, sauf pour certaines circonstances. Il lui dit, le mal s'est infiltré même dans l'amour. Elle lui demande, et vous l'amour, vous le faites ? Il rougit et lui dit « Non, enfin, non. » Elle lui demande « Vous êtes vierge ?» Il lui répond « Non, je sais ce que c'est, mais... Et comme je vous le disais, je recherche des sentiments. » Elle lui dit « Moi, j'aimerais bien, de temps en temps, pas vous. » Il lui dit « Oui, bien sûr. » Elle lui demande « Alors, comment faites-vous ?» Il lui répond « Je reste chaste. Ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Une personne qui veut rester chaste, on la regarde d'une drôle de façon. Ce n'est pas normal. Et pourquoi n'est-ce pas normal ? Parce que tous croient que l'on ne peut pas se passer de l'acte d'amour à moins d'être fou. Moi, je pense que l'acte d'amour est une chose que l'on peut se passer si l'on veut et que ce n'est que physique. Pour moi, les sentiments sont plus forts que le reste. » Elle lui dit « Vous êtes fort. » Il lui dit « Non, je ne suis pas fort, mais j'ai des principes. » Elle lui demande « Mais que faites-vous ? » Il lui dit « Rien. J'attends la personne à aimer. » Elle lui dit « Vous êtes un drôle de sauvage qui rêve trop, ou plutôt un sauvage fort, parce que le sauvage ne se pose pas de questions pour la chose. Ils sont directs. Vous êtes un petit monsieur orgueilleux qui joue les sauvages. Tenez, comme ce Rimbaud, dont je viens de découvrir ses poèmes. Poèmes d'adolescent en rébellion contre le monde. Rien de plus. » Il lui dit « Non, c'est un grand poète. Vous avez peut-être raison, oui. Je ne suis pas le sauvage. Je le suis qu'en moi-même. Cela ne veut pas dire que je sois contre la société ou contre moi, je rêve d'autre chose, parce qu'elle m'ennuie et que je sens mal dans cette vie. » Elle lui dit « Bien moi, j'aimerais être heureuse, ici ou ailleurs, j'aimerais avoir un enfant, vous voulez pas m'aider pour ça ?» Il lui dit « Non, je ne le peux, vous avez votre mari. » Elle lui dit « J'ai beau essayer avec les autres, et même mon mari, ça ne marche pas. Tu as voulu des rapports plus rapprochés. » Alors, il lui dit « Non. » Elle lui demande « Pourquoi ?» Il lui dit « C'est pour vous et pour l'enfant. » Elle lui dit « Mais l'enfant sera très heureux avec moi. » Il lui dit « Peut-être, mais si un jour il apprendra comment il a été conçu, il risque de ne pas l'être. » Elle lui dit « Mais l'être a été conçu, il sera conçu par amour, avec amour. » Il lui dit, et illicitement, illégalement, elle lui dit « Mon mari pourra le prendre comme son fils. » Il lui dit « Ça c'est vous qui le dites, il pourra le rejeter. » Certains hommes peuvent être fort violents lorsqu'ils apprennent une chose comme celle-là. Elle lui dit « Vous parlez comme un vieux. » Il lui dit « Peut-être bien. » Il se lève. Elle lui demande « Vous partez ?» Maxime lui répond « Oui. » Elle lui dit « Restez, c'est pas parce que... » Il lui dit « Non, il vaut mieux que je m'en aille. » Notre conversation est allée un peu trop loin. Elle lui demande « Pourquoi ? Nous avons parlé que d'un enfant à venir. » Il lui dit « Oui. » Elle lui dit peut-être mieux de ne pas en parler, mais de le faire. Moi, je suis franche. Vous m'en voulez ? » Il lui dit « Non, j'ai passé une très bonne soirée grâce à vous. » Elle lui dit « Elle peut se continuer d'une façon plus agréable. » Il lui dit « Non, j'aime mieux vous quitter comme ça. » Elle lui dit « Alors, au revoir, petit sauvage, bon sauvage. » Il lui dit « Au revoir, je pousse la porte d'entrée. » Elle lui dit « Oui, fermez-la bien. » Et il la quitte. Une fois dehors, il se dit que c'était une drôle de soirée, mais très intéressante. On peut discuter avec elle. Quelle belle femme aussi. Est-ce que je ne regrette pas d'avoir pas couché avec elle? Ça aurait été très agréable, mais non. Et en plus, il y avait cette histoire d'enfant. Je ne veux pas faire un enfant comme ça. Depuis sa première expérience qu'il a eue, lorsqu'il était tout jeune, il n'a eu aucun rapport intime. Ça ne le gêne pas. Ça peut paraître invraisemblable au commun des mortels, mais certaines personnes n'ont pas des besoins ou très peu. Cela existe et cela existe, mais ça arrive. Si l'on apprend, on dit que c'est faux, l'on rit, parce que la majorité des gens sont portés là-dessus, ne comprennent pas que d'autres le sont moins ou pas du tout. Les personnes qui ont une vie intérieure très intense sont moins portées ou pas portées du tout. Quelquefois, ça peut être le contraire. Cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les femmes ni qu'ils ont des goûts spéciaux. Non, ils ont les mêmes désirs que les autres, aiment les femmes. Mais les rapports intimes ne les attirent pas ou peu. Et puis, ils respectent l'être humain, la femme, donc ils ne feraient pas ça juste pour son plaisir. Il veut du sentiment. C'est plus difficile d'avoir des rapports si l'on tient au sentiment. Alors son plaisir reste en sommeil. C'est pas si mal, parce que toujours désirer, c'est pénible. Il faut toujours chercher une partenaire. Et puis même si l'on est célibataire, il est le contraire de son frère et de son oncle, qui eux vivent une vie dissipée, avec des difficultés à cause de leurs désirs, qui ne pensent qu'à assouvir. Ils sont constamment à la recherche de ce désir, ils ont constamment faim. Les jours passent. Maxime de temps en temps pense à la femme parce qu'elle est intelligente et belle, mais ne la revoit plus. Elle a peut-être trouvé quelqu'un. Maxime pense toujours à la montagne. Son père le sait, veut lui faire plaisir, et un jour lui dit
« Tu sais, tu peux en trouver très belle en France, en Savoie et en Suisse. Pourquoi ne ferais-tu pas un voyage en Suisse et à Davos? C'est très beau, tu sais. Qu'est-ce que tu en penses ?»
Maxime lui dit « Oui, peut-être, merci. »
Maxime voit les livres sur la Savoie et la Suisse. Se rappelle les promenades à Aix-les-Bains lorsqu'il était enfant avec sa famille. Le Mont Blanc doit être très beau. Et la Suisse, pourquoi pas? Davos l'ont dit que c'est magnifique et bon pour les poumons. Son père lui demande, alors, Maxime lui dit, oui, je voudrais bien aller au pied du Mont Blanc. Son père lui demande, et la Suisse? Oui, Davos. Son père lui dit, tu veux partir quand? Maxime lui dit, je ne sais pas. Son père lui dit, parle le plus vite possible. Tu as mauvaise mine, ça te fera du bien. Maxime lui dit, le temps que je me prépare, son père lui dit, dès que tu es prêt, dis-le-moi. Maxime lui dit, bien, père. Maxime se demande pourquoi son père veut le faire partir si vite. Il prévient sa mère qu'il va faire un voyage. Elle lui demande, t'as prévenu ton père? Il lui dit, oui, c'est lui qui veut que je m'en aille parce qu'il trouve que je suis pas bien. Sa mère inquiète le regarde bien et lui demande, tu vas bien? Il lui dit, oui. Elle lui dit, il est vrai que tu es assez parlichon. »
Son frère apprend qu'il va partir en vacances, comme il dit, que c'est son père qui le lui paye. Il est furieux, il dit à sa mère. Il a tout pour lui. On lui offre même des vacances. Et moi, rien. Elle lui dit, toi, tu ne travailles pas. Il est furieux. Elle dit à son oncle. Son oncle lui dit, laisse-le partir. Comme ça, nous serons libres. Maxime fait ses achats pour son voyage. Chaussures de montagne, veste et pantalons velours, trousse de voyage, etc. Il achète ça tout rue des Archers. Puis, il va voir son père à son bureau. Voilà père, je suis prêt. J'ai acheté le billet pour le train pour Chamonix. Son père lui dit, très bien mon fils, pourrais-tu me rendre un petit service? Maxime lui fait, oui père. Son père lui dit, voilà, j'aimerais c'est que tu transportes quelques petites choses à déposer à la banque de Genève, la banque suisse compagnie. Maxime lui dit, oui père. Son père lui dit, mais attention, il faudra pas se faire prendre par les douaniers. Maxime devient tout rouge. Son père lui dit, ce n'est rien du tout. N'aie pas peur, juste quelques petites pièces d'or. C'est parce que l'argent risque de dévaluer. En Suisse, on a une bonne somme. Je viens d'ouvrir un compte. C'est très simple, on ne te demandera rien. Tu prends ces pièces que je vais te donner, tu les donneras à la banque à mon nom. Voilà. Et le père lui donne un paquet. Dedans, il y a des pièces d'or. Il lui dit, tu cacheras bien. Maxime lui dit, et si on me les vole? Son père lui dit, on ne te les volera pas. Maxime se dit que c'est plus un voyage d'agrément. Son père l'a eu. Son père lui a donné ses pièces dans une sacoche en cuir. Arrivé à sa chambre, il réfléchit à savoir comment il pourrait cacher ses pièces. Dans sa valise, il peut se la faire voler. Sur lui, comment? Il est bien embarrassé avec ça. Mais comment faire? Dans son caleçon, ça risque d'être gênant et faire du bruit. Il décide de les mettre dans ses chaussettes. Elles sont grandes et elles ont un élastique. C'est ce qu'il fait. Il va à la gare de Perrache pour aller à Chamonix. Puis se dit qu'il ferait peut-être mieux d'y aller directement en Suisse. Et puis tant pis. Il entre dans un compartiment de première classe. Le trajet est long, très long. Arrivé à Chamonix, épuisé, trouve un hôtel de luxe. une fois dans sa chambre. Il sort les pièces de ses chaussettes. Ses jambes sont endolories à cause des pièces. Elles lui font mal. Elles sont toutes rouges. Il va mettre ses pièces dans le coffre de la banque. Il y a beaucoup de monde à l'hôtel dans la ville. Il fait très chaud. Va au restaurant de l'hôtel, en face de sa table, il y a une autre table où une femme très belle, mince, blonde, avec un enfant d'une très grande beauté d'à peu près 12 ans. La femme semble excitée, dispute toujours son enfant pour rien. L'enfant a l'air triste. Après avoir mangé, Maxime traîne dans la ville et se renseigne pour le Mont Blanc, qu'il voit, il est magnifique. Il se renseigne à l'office du tourisme et demande si on peut monter comme ça. On lui dit que c'est très dangereux, la neige et rochers. On lui demande s'il est sportif. On lui dit qu'il y a un train qui rapproche du Mont Blanc. Le lendemain, Maxime prend le train pour se rapprocher du Mont Blanc. Après une longue marche fatigante, il se trouve au pied de la montagne. Ça lui fait un drôle d'effet. Il a l'impression d'être arrivé au pied de l'autre. Puis, en s'en approchant, l'herbe qui est de plus en plus rare au milieu de rochers, plus il monte et plus c'est fatigant pour marcher. Malheureusement, il ne voit que la montagne est très abrupte. Alors il s'en retourne. Se renseigne au concierge de l'hôtel pour qu'il puisse faire l'excursion au Mont Blanc. Le concierge de l'hôtel lui indique qu'il peut le trouver un guide. C'est dans un grand chalet. Il y a plein de guides pour les touristes. Maxime y va. Un homme grand, fort, rougi par le soleil dans les 30 ans peut bien le mener au pied du Mont Blanc, même un peu au-dessus. Enfin, peut-être pas jusqu'en haut parce qu'il n'est pas assez expérimenté. Mais il pourra le mener jusqu'où il pourra. On se donne rendez-vous pour le lendemain matin à l'aube. Le lendemain matin, à l'aube, Maxime. Va rejoindre son guide. Il fait très beau. Le paysage est grandiose. Maxime est heureux. Il se met en route. Il fait de plus en plus beau. Après des heures de marche à pied, ils arrivent au pied du Mont Blanc. Le guide lui met une corde autour de la taille pour le protéger et commence une petite escalade sur la roche. C'est abrupt, il doit faire très attention et suivre les indications du guide. Le soleil s'est levé, il fait très chaud et l'air est vif. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Dom. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.